Je vais faire ma présentation en portugais et voici le logo de l'AAP, l'Association des amis et parents de personnes spéciales. Et je vais vous parler de la trajectoire de la langue des signes dans l'État d'Alagoas. Pourquoi? Parce que tout d'abord, parce qu'elle a eu un impact social très, très fort dans la communauté auprès de la communauté des sourds et parce que l'État d'Alagoas n'est pas le seul à traverser cette situation. Il y a certaines personnes qui ont fait partie de cette trajectoire, par exemple Nelson Pimenta, le professeur Ronicia Quadros et mon amie de Paraíba qui a été là-bas interprétée lorsqu'elle était enceinte de sa fille à l'époque qui a maintenant 17 ans. Alors Ronicia est arrivée, est allée là-bas avec sa fille qui était bébé aussi, qui était un bébé à l'époque. Alors voyons, il est très important que je vous parle, que je vous fasse cette présentation. Voyons un petit peu comment je vais passer à la page suivante. Alors, il est important de vous dire que cette trajectoire s'est inspirée de l'histoire de mon frère, qui est sourd, hein, qui est décédé lorsqu'il avait 15 ans. Et il est né, et nous avons aussi, que nous avions, tout le monde était très, très jeune dans cette présentation. Alors, c'était une parenthèse, mais pour vous dire que mon frère, j'ai appris à me rapprocher, à aimer hein, les individus sourds. Alors, je ne suis pas linguiste, je ne suis pas chercheuse, je suis une personne qui aime faire en sorte que les choses arrivent, hein, les bons projets arrivent à terme. Et avec mon frère, je suis parvenue à entendre leurs demandes, les demandes des sourds. Alors, lorsque je suis analyste de système, je suis allée habiter à Lagos, j'ai commencé à faire du volontariat et j'étais scandalisée parce que là-bas, il n'y avait rien hein, qui est pour les sourds. Ils n'avaient aucune visibilité, la langue des signes était au l'état zéro et dans les gens autour d'eux, ils ne savaient même pas dire bonjour en langue des signes. Donc voilà, c'est comme cela que j'ai commencé à développer des projets destinés aux sourds. Alors je n'arrive pas, excuse-moi, mais est-ce que tu peux m'aider à ouvrir cette page, s'il te plaît? J'apprécie ton aide. Voilà, alors... Alors, comment avons-nous commencé? Nous avons débuté, nous avons commencé à sensibiliser, à créer la conscience, n'est-ce pas? Et qu'était cette langue, hein, voilà, et ce qu'elle représentait dans le développement des sourds? Alors, j'ai commencé à inviter des personnalités de Rio. Je suis entrée en contact avec FENES et j'ai connu donc, la personne, donc le professeur Tamara, Philippe, voilà, toutes ces personnes qui ont construit la trajectoire de la langue des signes au Brésil. Donc, je suis entrée en contact avec elles. Nous avons commencé, débuté tout un débat hein, sur ce qu'était, quelle était cette langue. Ensuite, les parents ont demandé à scolariser leurs enfants. Nous avons parlé d'éducation bilingue et nous avons effectivement commencer à, d'ailleurs, des jeunes sourds adultes ont commencé à demander un emploi. Donc, il y a eu à peu près 4000 adultes qui ont demandé du travail là-bas et j'ai compris qu'il y avait une demande. Hein, donc, les entreprises, elles, ne connaissaient pas du tout les sourds et ils étaient discriminés dans leur propre l'entreprise où ils travaillaient. J'ai vu par conséquent que le fait de qualifier la société était une façon d'intégrer et d'inclure les sourds. Et de cette façon, nous avons organisé la première rencontre de sourds d'Alagoas, qui était le premier événement où il y a eu des interprètes en langue des signes. C'était extrêmement émouvant parce que les sourds étaient en délire absolu, ils étaient ravis, les familles étaient extrêmement émues. Alors, ils en sont sortis. je m'en souviens encore. Et les sourds ont commencé à revendiquer, alors à faire d'avoir leurs revendications. En 1998, nous avons soutenu donc l'officialisation de Libras à Alagoas avant que ce soit effectivement officialisé dans le reste du Brésil. J'ai eu l'acceptation, cela a été validé. J'ai été à l'Assemblée législative, j'ai arrêté l'autobus du président de la République pour qu'il l'officialise au Brésil, et le gouverneur était à côté, il l'a officialisé dans cet État. Et à partir de cette officialisation, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en chaîne. La loi 60-60 de 88, elle a eu lieu, donc toutes ces choses incroyables qui se sont passées, hein. Et en 89, hein, voilà, j'ai pensé, je ne peux pas continuer à porter des interprètes de Recife et Paraíba. Nous devons former nos interprètes. Donc j'ai su que dans le Sud, le professeur Onísio Quadros, elle investissait beaucoup dans cette formation. Je l'ai contacté et nous avons promu une formation de 560 heures parce qu'il n'y avait rien, hein. On est parti de rien et de là sont sortis les premières interprètes de Alagoas. Donc 89 a été vraiment une année de transition qui a permis beaucoup de choses, effectivement. C'était en 99 et pas en 89, hein, je corrige. Et donc, de là a commencé toute une visibilité des sourds. Et il y a certains sourds qui ont commencé, effectivement, à manifester leur souhait d'accéder à l'université. L'université était très, très, très fermée, hein, l'enseignement supérieur à Alagoas. Donc, elle s'est ouverte avec des lettres et libres. Et c'était, effectivement, une des universités qui a adhéré à lettres et libras. Aujourd'hui, c'est une autre réalité. Au début, les sourds n'arrivaient pas à être approuvés. Ils se plaignaient beaucoup. Donc, les entendants qui étaient fluents dans le système Libras, ce sont eux qui sont entrés tout d'abord dans Libras. Et ensuite, nous avons fait un baccalauréat préalable. Nous avons travaillé beaucoup dans la rédaction du portugais, de la langue portugaise. Et la prochaine promotion de baccalauréat, là, oui, il y a beaucoup de sourds qui ont été approuvés. Donc, c'était extrêmement émouvant également. On peut voir que cette institution est une institution qui vient compléter les politiques publiques d'une façon positive et vertueuse. Et en 2000, alors là, j'ai commencé à réfléchir à un institut de qualification, d'où mon idée de l'institut bilingue de qualification qui se réfère à la surdité. Lorsque nous avions le professeur Carlos qui est allé inviter à Maceió, n'est-ce pas, je lui ai parlé de mon concept d'inclusion, je lui ai parlé de mes idées, et par conséquent, il m'a envoyé comme cadeau toute la proposition d'intervention d'Iris. Et j'ai commencé à rêver avec ceci. J'ai invité un architecte espagnol d'ailleurs, cet architecte est décédé depuis, mais qui m'a confié ce projet d'architecture. Nous avons obtenu le terrain de l'État et cela fait 2 mois que nous avons inauguré Iris et nous avons élu comme priorité d'Iris l'éducation infantile. Étant donné qu'il existe 87% des enfants sourds qui ne sont pas scolarisés. Hein. Donc, nous avons décidé d'investir dans cette priorité, la jeune enfance et donc tous les enfants. Nelson le sait, nous avons un théâtre très, très beau. Iris, c'est un très, très bel espace. C'est un lieu unique. Vous savez, lorsqu'on fait une peinture et vous ne la signez pas, alors je... Pour moi, voilà, c'est ça. C'est voilà, je suis émue rien que d'en parler. C'est mon leg, hein, c'est voilà. Voilà, c'est la traduction de l'amour que j'avais pour mon frère et j'ai décidé de le transformer. Et j'espère que les sourds d'Alagoas se développent suffisamment pour prendre soin de cet espace Iris qui est fait pour lui et que l'on ait leur participation intense de leur part pour soutenir effectivement leur éducation, pour continuer, poursuivre leur éducation. Alors, en 2001, donc en poursuivant, en 2001, Nelson était présent à Maceió et nous avons réfléchi. Et je lui ai dit, mais alors, Alago, c'est une réalité tellement difficile. Quelle est la réalité du reste du Brésil? Alors, je suis arrivée à Brasilia, hein, donc le secrétariat des droits humains, et j'ai parlé à tout le monde. J'ai dit que je voulais connaître la réalité des sourds au Brésil. Nous avons élaboré Escuta Brasil, Écoute Brésil, qui est un documentaire. Alors, il y a moi, Nelson et un caméraman. On a parcouru tous les États du Brésil et on a interviewé des sourds, la famille des sourds, le secrétariat d'éducation, les professeurs, les enseignants. Et en 28 heures, nous avons produit 28 heures d'entretien, d'interview. Et nous avons produit une vidéo de 28 minutes. De ces 28 minutes, j'ai choisi 3 minutes que je voulais vous montrer. C'est un moment au Brésil qui a précédé l'officialisation de la langue des signes au Brésil. Et donc, tout cet éveil qui a eu lieu, et j'ai pensé je serai dans un événement où il y a plein de chercheurs. Je ne suis pas académique. J'ai mon diplôme et j'ai théorisé ma pratique. Je fais un travail de terrain. Je sais que nous devons lutter pour survivre. Et quand on lutte pour survivre, on n'a pas le temps de voyager. On doit mettre en pratique. Et ce n'est qu'après, de beaucoup d'années, c'est là que j'ai décidé de faire, de théoriser ce que j'avais vu et ce que j'avais fait. Vous comprenez? Et donc, Escuta Brasil, Écoute Brasil, nous sert de matériel de recherche. Et lorsque nous avons produit ce documentaire, Nelson m'a dit, tu sais ce que j'ai compris? J'ai compris, un accent de la langue des signes du Brésil. Et je veux mettre ceci dans le vidéo. Je lui ai dit, vas-y, parce que c'est quelque chose qui va rajouter, mettre de la valeur ajoutée. Je voudrais effectivement m'arrêter en vous montrant un petit peu de cet extrait d'Escuta Brasil. Je pense que c'est la première fois que je le montre en public. Et voilà, il y a certains professeurs du Pará, les gens du Brésil, comme dans cet événement ici. Je voulais terminer mon discours, mais je suis très nerveuse parce que parfois, je parle au président du Brésil et quand je suis devant vous, cela me rend nerveuse. J'espère que vous aimerez. Nous avons un projet qui a été développé auprès des associations, des familles de sourds. Le projet est né de la nécessité, du besoin de connaître la réalité des sourds au Brésil. Les difficultés que nous avons rencontrées jusqu'à présent sont toujours les mêmes. Quelques rares exceptions, à savoir les difficultés notamment concernant l'éducation, la démocratisation de la communication et entre tous les sourds qui doivent être résolus. Alors, il y a certains États qui ont plus d'interprètes, par exemple, mais disons que il y a toujours la question de l'apprentissage de la langue des signes, de l'oralisation dans certains États où l'oralisation a été plus élevée, était plus forte. Et là, il y a un doute qui subsiste. La langue des signes dans différentes régions du Brésil. L'Institut national d'éducation des sourds a toujours été et continue à être une institution de grande importance pour la communauté des sourds au Brésil. L'IBRAS se base sur cet institut et ce sont ses études et ex-élèves qui sont dans tout le Brésil. L'IBRAS est unique, mais elle possède des variations régionales, comme toutes les autres langues. C'est pour cela que la recherche est importante. Voyez ces exemples. mieux aussi. Vous avez vu, il existe des différences régionales dans la langue brésilienne des signes. Alors, ce signe, c'est joli, n'est-ce pas? Cela signifie mieux, d'accord? Ou encore ces autres signes. J'ai vu aussi ce signe pour mieux. Il existe plusieurs signes pour ce mot. À Belém, nous observons que le signe de « mais » est celui-ci. Mais à Rio, « mais » peut être fait de deux façons. Dans d'autres endroits, c'est cette façon-ci. En voyageant au Brésil, j'ai vu également « mais » être fait de cette façon. À Natal, nous trouvons également des différences. Par exemple, le signe « aussi ». À Rio, c'est comme ceci. Dans plusieurs endroits du Brésil, on dit « aussi » d'une autre façon. Et voici quelques exemples de variantes régionales dans la langue brésilienne de signes. Nous avions donc le padre qui recherchait les mots en langue des signes et qui me les a trouvés pour nous aider. Il a enregistré des signes dans tous les États du Brésil et il a sélectionné les signes qui étaient semblables pour composer un dictionnaire. Et ce travail a été diffusé dans tout le Brésil. Ce travail du dictionnaire a été fait en réunissant les vocables qui étaient présents dans le Brésil. Donc, ils sont réunis sous forme d'un dictionnaire. Et de cette façon, nous montrons les détails de notre véritable langue. Alors, après ce travail, les sourds pourront aller chercher sur Internet les signes dont ils ont besoin et apprendre la traduction en portugais. Donc, il pourra aller chercher un mot en portugais, un mot qu'il connaît, et trouver le signe correspondant. Il va trouver les différents sens des signes de Libras et le dictionnaire ne servira pas seulement aux sourds, mais également aux professionnels entendants et à leurs familles.
Bonjour. Bonjour. Merci. Je suis très contente d'être ici à ces rencontres franco-brésiliennes. Moi, je suis un peu exotique parce que je viens de l'Espagne. Je travaille en Allemagne et moi, je suis très intéressée à toutes ces interventions. Je m'excuse aussi pour mon français. Ce n'est pas parfait, mais j'espère que les interprètes me comprennent et que vous me comprenez aussi.
Ça va très bien.
On revient sur une investigation plus théorique sur le développement bilingue de la langue des signes et la langue écrite chez les apprenants sourds. Et mon thème, c'est les interfaces. Je vais voir qu'est-ce qu'il passe là. Bien, il s'agit de quoi? On va avoir une petite introduction sur la notion des interfaces. Puis la relation de ces notions avec l'acquisition du langage et l'organisation de langues de signes et langues parlées. Après, je vais présenter brièvement les résultats de mon étude du développement bilingue chez les apprenants sourds. Bien, la notion des interfaces, on la connaît dans beaucoup de domaines. Ça veut dire ou implique une communication entre des systèmes divers. Si on traduit ça à la langue, nous savons que la langue a une organisation très complexe avec des sous-composants et les interfaces impliquent l'interaction de l'information de ces sous-composants. Si on distingue aussi des interfaces internes qui impliquent les composants de la langue comme la syntaxe, la lexique, la phonologie et aussi des interfaces externes avec le contexte, le discours, la pragmatique, mais aussi des connaissances plus générales, cognitives, comme la mémoire du travail, etc. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre compréhension de la structure ou l'organisation des langues? Traditionnellement, on a focalisé les éléments, les unités et les structures des langues aux différents niveaux individuels linguistiques. Mais si on regarde les propriétés, spécialement des langues des signes, on voit qu'il y a des interactions de l'information des différents niveaux. Et surtout, par exemple, si on regarde la co-référence, l'établissement ou le déplacement référentiel, pour l'expression de ces phénomènes, on a besoin d'informations de beaucoup de niveaux linguistiques. Il faut intégrer cette information et ça nous montre que nous faisons un usage très sophistiqué de l'espace pour créer et contrôler la co-référence ou la cohésion, spécialement au niveau narratif. Bien, avec ces connaissances sur la complexité de la connaissance grammaticale, quel est le rôle des interfaces linguistiques dans l'acquisition du langage? Traditionnellement, on avait regardé les développements de langues pour identifier des phases développementales aux différents niveaux linguistiques. On a regardé la syntaxe, on a regardé le lexique, et aussi les développements en ce qui concerne le paramètre grammatical. Mais récemment, il y a beaucoup d'auteurs qui se demandent pourquoi est-ce qu'il y a des propriétés grammaticales qui prennent beaucoup plus de temps. Ouais. Et on a élaboré des hypothèses sur les éléments grammaticaux ou les phénomènes grammaticaux qui impliquent des interfaces. Qui montre la complexité de la dynamique du développement du langage. D'un côté, ces études montrent cette dynamique liée à la complexité de l'organisation de la langue. De l'autre côté, des auteurs comme White, Lydia White, a remarqué qu'il faut être prudent. Ce n'est pas le cas que toutes les interfaces font des problèmes, ou qui sont liés à l'échec inévitable de l'acquisition. Ces recherches sont liées surtout sur l'acquisition de la langue seconde. Brèvement, ce n'est pas une notion nouvelle. Alors, il y a surtout à la recherche de la langue allemande, on a beaucoup d'études qui montrent que les apprenants prendre leur temps pour apprendre les propriétés de la langue cible, et spécialement aussi dans le domaine du développement narratif, ce qu'on pourrait appeler l'orchestration des éléments linguistiques prend du temps. Et c'est le résultat d'un développement tardif parce qu'il faut apprendre les textes et l'usage des éléments linguistiques pour différentes fonctions ou objectifs communicatifs. Bien, qu'est-ce que nous faisons avec tout ça, la théorie et les résultats des études sur la langue parlée? Dans l'étude du développement bilingue sur les apprenants sourds, historiquement, si on veut, les études sur l'acquisition de langues chez les apprenants sourds sont focalisées d'une partie d'une perspective éducative. Là, on a recherché, on a étudié l'impact de la langue des signes sur le développement de la langue écrite pour savoir si la langue des signes facilite le développement de la langue écrite. Et d'une perspective plus linguistique, plus développementale, on a essayé d'identifier le phase de développement bien dans la langue des signes ou dans la langue écrite. On n'a presque aucune étude sur le développement bilingue. Alors, peu connu sur ce développement, Et en ce qui concerne la langue des signes allemand et l'allemand écrit, la connaissance est aussi très, très fragmentaire. Moi, je viens à présenter brièvement l'étude que nous avons faite en Allemagne. C'est une étude avec des participants qui étaient dans un programme bilingue à Berlin. Leur âge au début de l'étude était entre 6 et 7 années. Une caractéristique de ce programme, c'est qu'on avait 15 heures de team teaching. Alors, c'était le professeur sourd et le professeur entendant qui enseignaient ensemble. On a ramassé des données avec l'histoire des grenouilles, très connues dans les études d'acquisition. Et on a ramassé des dates, des narratifs signés et des narratifs écrits. Nous sommes guidés par les questions de recherche suivantes. Quelle est la structure disponible au début de la recherche? Spécialement sur les éléments qui impliquent des interfaces. Et après, nous voulons savoir aussi comment est-ce qu'elles progressent pendant l'étude et la variation entre eux. On a fait des analyses quantitatives et qualitatives et pour chaque participant, on a identifié un profil linguistique. Le résultat nous montre que les enfants ou les participants se parlent deux langues. Nous savons bien que dans ce domaine de l'acquisition bilingue, il y a encore des préjugés sur le contact ou le mélange de langues. Hein? Mais ça, les dates sont très claires, il n'y a pas de confusion. Et pendant la durée de l'étude, on a vu que la structure, la complexité de la structure augmente. Et c'était intéressant aussi de voir une certaine asynchronie dans le développement des deux langues. Je vais vous montrer quelques aspects. Pour la langue des signes allemande, DGS, nous voyons au début de l'étude qu'ils ont en commun de la structure cible, si on veut. Alors, le lexique est là, la morphosyntaxique aussi. Mais il y a variation au niveau des discours. Ça veut dire, par exemple, pour le choix de location dans l'espace, on a une variation qui va de la choix d'un point dans l'espace pour tous les protagonistes d'une histoire. Ça, par conséquence, nous rend une certaine ambiguïté référentielle. Et c'est problématique de suivre l'histoire ou la narrative. Et de l'autre côté, on a des participants qui font un usage conséquent et contrastif des locations dans l'espace. C'est clair, la narrative, on n'a pas de problème à comprendre. Là, alors, les vidéos vont tous ensemble, mais on voit à gauche un participant où la narrative est très générique, on ne sait pas exactement qui fait quoi, pourquoi et où, parce qu'il ne choisit pas la location dans l'espace, il n'explique pas. Et à droite, on voit un participant qui est très précise en ce qui concerne les formes référentielles et locations. Je vais... pas expliqué, mais sur le choix de formes pour exprimer la référence, on voit aussi une certaine ambiguïté parce qu'au début, ils utilisent beaucoup les formes, je ne sais pas comment on dit en français, nul, subject drop ou verb drop. Hein? Mais ça aussi, avec le temps, ça devient plus clair. Et brièvement, je vais faire un sommaire de leur développement de l'allemand. Là aussi, on voit une certaine variation parce qu'il y a des participants qui ont une commande de la structure cible et des autres participants qui ont seulement une structure très allemandale, sujet, verbe, objet et pas plus. Mais ils ont aussi un développement qui est similaire au développement de l'allemand chez des autres apprenants, mais ça va plus lentement. On a fait aussi des analyses très détaillées des formes verbales, parce que ça, comme Madame Perrini l'avait expliqué aussi aux des autres participants, c'est un domaine problématique aussi, le développement de l'écrite. Et là, on voit aussi que le problème, si on fait cette analyse détaillée, implique des interfaces internes. Alors, l'intégration de l'information de différents niveaux linguistiques. Pour conclure, nous voyons qu'il y a une asynchronie dans le développement des deux langues. En ce qui concerne le développement de l'allemand, les participants sont encore, ils travaillent sur la structure grammaticale. Alors, ça implique des interfaces internes. Et en ce qui concerne la langue des signes, ils sont plus avancés. Et là, il y a variation au niveau discursif ou narratif. Ça implique des interfaces externes. Alors, on voit que la notion des interfaces est très importante et utile aussi pour expliquer le développement dans les deux langues. Nous savons aussi que le développement au niveau discursif prend du temps. Je crois que c'est très intéressant aussi de regarder la variation qu'il peut avoir avec le développement des différents types de textes ou des narratifs. Là. Et je crois aussi que c'est très intéressant de collaborer avec le professionnel dans l'école pour travailler sur la didactique des textes et narratifs dans les deux langues. Et c'est ça. Merci.
Merci beaucoup.
Bonjour.
Bonjour, je suis Juliana et je suis professeure de français. Voici mon signe. Je suis donc professeure de français au collège Pedro II à Rio de Janeiro. Il s'agit d'un grand collège qui a près de 14 000 élèves, donc dans différentes classes. Et en plus de professeure de français, ces deux dernières années, j'ai été coordinatrice de NAPINI, le noyau d'accueil aux personnes qui ont des besoins spécifiques. Il s'agit d'un secteur où certains élèves qui ont des besoins spécifiques peuvent être accueillis. Nous avons par exemple des élèves sourds, des élèves aveugles, des élèves qui ont un retard, certains élèves qui sont autistes ou dyslexiques, donc de nombreux types d'élèves. Donc je travaille sur la question de l'inclusion, mais sur un éventail assez varié. Mon intérêt pour la surdité a commencé en 2007. C'est lorsque j'ai eu mon premier élève sourd en tant que prof de français. Donc à l'époque, j'ai étudié un peu le Libras, j'ai commencé à faire quelques recherches dans ce domaine et j'ai vraiment été très heureuse lorsque j'ai compris le lien qui existait entre la France et la communauté sourde au Brésil, de par l'histoire du 19e siècle, où le roi Pedro avait invité déjà un éminent scientifique français pour créer la première école pour sourds. Et la langue des signes française, qui était pratiquée au 19e siècle à Paris, avait été introduite au Brésil à l'époque et est venue ainsi s'ajouter à la langue des signes brésilienne qui existait déjà. Donc cela m'a vraiment réjouie. J'ai commencé à identifier plusieurs signes, à faire des associations, par exemple le verbe parler, le Libras. Nous faisons une configuration en P. Et pourquoi pas en F, le F de falar, de parler? Eh bien, parce que le P vient de parler, justement. Mais dans la langue des signes française, maintenant, on ne fait plus de P. Maintenant, on fait comme ceci. Donc, les langues ont évolué des deux côtés Mais le Libras garde des racines de la langue des signes française. Il y a une très forte influence de la langue française écrite dans le LSF, notamment ce P de parler. Donc tout cela m'a vraiment intéressée et j'ai commencé à m'intéresser dans l'enseignement du français aux sourds, ce qui n'existait pas auparavant au Brésil. Si un sourd veut apprendre le français au Brésil, où va-t-il se rendre? À l'Alliance française? Non, il n'y a pas de méthodologie adaptée à ce public. Je vais donc ici vous présenter un échantillon de ma thèse de doctorat sur l'enseignement du français aux sourds brésiliens. J'ai soutenu ma thèse en 2006. Une partie de cette thèse a été réalisée ici à Paris 8. J'avais déjà fait un master 2 de recherche ici à Paris 8 sous l'orientation de Ivani Sueli Souza. Donc j'ai vraiment beaucoup appris dans cette université. J'ai pu travailler avec une équipe fantastique d'enseignants. Et je me suis également rendue à l'INJS où j'ai pu voir comment le français était enseigné aux sourds français. Donc lorsque nous parlons de l'enseignement des langues étrangères pour les sourds, il est très important de souligner la situation linguistique de ce public. En général, le sourd est considéré comme un individu bilingue qui a comme première langue ou langue maternelle une langue qui est visio-gestuelle, donc le Libras dans le cas du Brésil, et comme deuxième langue, une langue qui est audio-orale, à savoir le portugais dans notre cas. Cet individu sourd va acquérir ces deux langues tout au long de la vie, cela de façon très particulière. Chaque sourd a son propre parcours et cela va varier en fonction de son degré de surdité, en fonction de sa situation familiale, s'il y a d'autres sourds dans la famille, par exemple. Cela va également se faire en fonction du contact qui peut exister avec la communauté sourde locale et en fonction de la langue de communication et d'éducation qui a été choisie par les enfants dans l'enfance de cette personne, par les parents, pardon. Donc malgré le fait que chaque sourd ait son propre parcours, il faut souligner que la langue des signes est une langue qui est acquise ou produite par le sourd de façon naturelle. La langue orale ne sera jamais acquise de façon naturelle. Elle le sera au travers de processus systématiques qui vont se centrer sur la structure de la langue. Ronis Quadros a une phrase que j'ai citée ici. Toute langue orale impliquera des procédures systématiques et formelles si elle doit être acquise par une personne sourde. C'est ainsi que cela se passe dans l'apprentissage du français ou du portugais en langue 2. Et cela se produira ainsi de cette façon dans l'apprentissage de toute autre langue étrangère orale. Au Brésil, l'enseignement des langues étrangères à l'école se fait généralement en sixième, il me semble. L'élève a généralement 11 ou 12 ans. Il a déjà atteint un certain niveau de littératie en L2. Et cela va favoriser l'apprentissage de cette langue étrangère orale. Dans ma pratique avec les sourds, j'ai eu l'opportunité d'enseigner à des adolescents à partir de la sixième. J'ai pu également enseigner au lycée et à l'université. Et dans ces différents contextes, j'ai développé deux compétences avec ces élèves. La compréhension écrite, la compréhension de l'écrit et l'expression écrite. Parmi les quatre compétences de l'enseignement des langues, l'expression orale, la compréhension orale, l'expression écrite et la compréhension écrite. Donc l'individu sourd peut parfaitement développer la lecture, la compréhension écrite et la production écrite. Et il peut également développer la production orale s'il est oralisant, s'il a déjà été oralisée dans la deuxième langue. Et cela dépend de son souhait, bien sûr. Maintenant, je vais vous parler de quelques exemples de l'enseignement du français aux sourds. Ce sont des expériences que j'ai pu avoir à l'université avec des sourds universitaires où j'ai utilisé un traitement pluriel, un abordage pluriel. Alors, qu'est-ce que ce type d'abordage? Donc, j'ai utilisé le Libras comme langue de communication et d'enseignement, donc la langue maternelle des élèves. J'ai utilisé le français langue étrangère, qui est la langue qui est enseignée, et parfois le portugais, qui est la langue 2 de l'élève, ainsi que la LSF. Dans cette classe, il s'agissait d'un cours de perfectionnement de français pour sourds. J'avais 7 étudiants sourds, sévères et profonds. J'avais quelques bilingues également. Ils étaient tous bilingues, pardon. Tous avaient déjà vécu l'expérience de l'apprentissage d'une langue étrangère au collège, l'anglais ou l'espagnol, par exemple. Donc, ils avaient déjà une expérience en langue étrangère. Donc, j'en viens aux exemples. J'utilisais toujours de vrais textes. Et j'allais travailler autour de la visite du zoo de Beauval en France. Mais avant de traiter le texte, je voulais les sensibiliser à la question des animaux. Donc, nous avons fait ce jeu. Il s'agissait d'une activité ludique où les élèves devaient associer l'image des animaux au nom de ces animaux en français. Donc, ils ont fait les différentes images en libras, par exemple l'éléphant. Donc, à travers du portugais, ils faisaient une association, parce que le français et le portugais ont la même origine, ce sont des langues romaines. Et donc, le portugais exerce également une influence dans leur lecture du français. Le deuxième mot, par exemple, serpente, en français, serpent. Donc, grâce à ces associations, ils ont pu compléter la liste des animaux, ce qui les a déjà un peu sensibilisés au vocabulaire en français. Voici le texte que nous avons utilisé. Donc, visiter le zoo au parc de Beauval. Vous avez ici toutes les informations concernant les horaires d'ouverture, de fermeture. Et puis, la question de la compréhension écrite. Donc, pour résumer, quel est cet abordage, ce traitement pluriel? Selon Candelier, cela correspond à des procédures didactiques qui mettent en pratique des activités d'apprentissage et d'enseignement qui impliquent plus d'une langue et d'une culture en même temps. Plus d'une langue et d'une culture en même temps. Donc, elle se distingue d'un traitement unique, où le seul objet de l'attention est une seule langue, une seule culture, prise de façon isolée. Donc, dans ce traitement, dans cette approche, j'ai utilisé d'autres langues et j'ai vu comment ces autres langues peuvent contribuer à l'apprentissage. Je vais devoir en arriver à ma conclusion. Nous avons également appliqué cette méthode dans l'apprentissage des jours de la semaine, en français, LSF. J'ai utilisé la langue des signes, l'International Visual Théâtre. Donc, voilà, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à intervenir. Voici mon expérience avec l'enseignement du français aux sourds. Merci.
Alors, le travail que je vais présenter maintenant traite de la collaboration entre élèves sourds brésiliens dans l'apprentissage de la langue anglaise. Je suis donc enseignante dans la langue anglaise, la langue des signes, dans l'Université fédérale de Goiás. Et donc, ici, nous avons effectivement une partie de ma recherche, donc de doctorat, et qui a été élaborée également avec les deux autres co-auteur. Alors, la théorie est une théorie socio-culturelle de Vygotsky, où nous pouvons voir, il décrit l'individu comme un être individuel et également un être social, donc qui est le fruit de ces deux dimensions. Et ces deux dimensions apparaissent chez l'individu d'une façon interdépendante et de façon imbriquée et assez complexe. Alors, dans ce processus individuel et social, nous avons le développement, mais également l'apprentissage de l'individu. Alors, l'être est un être individuel et social, comme je le disais, et son apprentissage est toujours situé dans ce contexte au travers de cette interaction. Alors, cette interaction est spécifiquement, donc elle passe par la participation et l'engagement personnel. Elle est basée dans un échange d'expériences et donc toute la création de connaissances et le dialogue est toujours transformé en contenu parce que toutes les interactions ne résultent pas toujours en apprentissage. Pour que cela arrive, elle a besoin d'être soutenue par ces trois socles. Et c'est dans ce cadre, dans ce contexte d'interaction qu'a lieu le développement mental. Alors, l'apprentissage des langues passe par un processus, est un processus mental qui est assez imbriqué. C'est un processus. Donc, l'apprentissage des langues est un processus mental, comme je disais, qui engage l'attention volontaire, donc tout ce qui concerne le raisonnement, mais également la planification, et qui passe par les livres, par des professeurs, mais également par les collègues. De quelle façon a lieu cet apprentissage? Selon Vygotsky, il existe une zone de développement. C'est une zone, disons, abstraite, c'est par conséquent le concept est métaphorique, où il y a effectivement un niveau de développement. C'est-à-dire que c'est la distance entre le niveau de développement réel, ce qui est possible d'être, que l'on peut faire tout seul, de résoudre des problèmes tout seul, et le niveau de développement potentiel, ce que l'on est capable de faire avec l'aide et l'intervention d'un individu plus compétent. Alors, voilà, c'est effectivement, par exemple ici, cet exemple du vélo nous montre très clairement cette zone de développement proximal, c'est-à-dire où l'enfant parvient tout seul à s'asseoir sur le vélo et avec l'aide de quelqu'un de plus compétent, d'un adulte, il va donc, étant donné des situations, il va apprendre cet enfant à faire du vélo jusqu'à ce qu'il y arrive, il y parvienne tout seul. D'accord. En faisant cette collaboration, cet adulte, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il agit comme effectivement un échafaudage, c'est-à-dire qu'il nous donne des explications, il donne des instructions et les explications pour y parvenir. Alors, les élèves, lorsqu'ils travaillent en groupe, ensemble, de façon collaborative, ils n'ont pas forcément besoin d'être dans des niveaux de développement différents. Ils peuvent être dans un même niveau de développement réel et ainsi qu'ils parviennent, par le biais de la communication et de l'interaction et la collaboration, et qu'ils atteignent un développement qui résulte sur un apprentissage. Donc ici, cette recherche, elle apporte ce contexte, elle intervient dans un contexte où les élèves sourds, dans un contexte de développement réel, par le biais de l'interaction et de la collaboration, ils apprennent la langue anglaise comme langue étrangère. Donc, cette étude, son objectif a été d'aborder deux buts. Donc, la mesure dans laquelle la collaboration peut favoriser l'apprentissage de la langue anglaise et quelles sont les éventuelles contributions que la collaboration peut apporter pour le développement linguistique de ses élèves. Hein? Alors, afin de faire cette recherche, qui donc est passé par une étude de cas basée sur des principes ethnographiques. Nous avions un groupe de langues anglaises instrumentales, c'est-à-dire des élèves qui ont choisi cette matière. Elle n'a pas de caractère obligatoire. Donc, c'était des élèves sourds dans un cours de lettres Libras. 10 élèves se sont inscrits à cette matière et ils ont été observés tout au long du semestre. De 32 cours, 28 cours ont été observés parmi ce cursus et ont été enregistrés et gravés et donc filmés avec une caméra avec l'autorisation de l'enseignante, mais également des élèves. Alors, outre cette caméra, des notations ont été prises et également une observation qui a été faite. Alors, à partir de l'analyse de données, j'ai pu montrer quelques exemples qui répondent à ces objectifs. Ici, ces chiffres, nous pouvons voir ici que d'après tous ces dialogues qui ont été reproduits, nous pouvons voir dans quel espace du travail ils ont été présentés. Alors ici, nous avons vu l'extrait 36, d'accord, c'est-à-dire qu'il y en a plus, il y en a d'autres, mais là, nous avons un extrait du 36. Dans quelle mesure la collaboration peut favoriser l'apprentissage de la langue? Donc, elle montre que l'on peut avoir recours aux camarades, à d'autres collègues, lorsqu'on a un doute concernant un signe ou un mot. Alors, les participants sont tous sourds, n'est-ce pas? Et donc l'information, est-ce que can est quelque chose, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un objet et can, non, c'est un verbe. Donc elle a vu qu'effectivement can n'était pas. Et donc elle a dit non, je savais déjà. Donc can, ça peut être les deux choses, un objet ou un verbe. Donc l'un savait que c'était un objet et l'autre, la terminologie, il disait que can, dans l'interaction, ils ont effectivement échangé cette information. Donc il y a une interaction d'échange de contenu, disons, d'accord? Alors à ce moment, donc les deux ont appris, d'accord? Les deux ont appris là-dessus. Un autre extrait qui nous montre dans quelle mesure la collaboration entre deux élèves ou d'autres, c'est lorsque ils demandent des explications sur le contenu. On peut demander des explications sur le contenu aux collègues, aux camarades et pas à l'enseignant. Et là, l'extrait, donc voilà un cours où l'enseignante parlait d'informations verbales et non verbales, d'accord? Et là, il nous dit non verbal, je n'ai pas compris, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, il nous donne l'information non verbale, c'est une information qui est différente, ce n'est pas ce qui est écrit. Alors, est-ce que c'est un texte différent? Non, c'est une information qui n'est pas écrite. Elle est dans le dessin, mais elle n'est pas écrite. Ah, j'ai compris. Donc, dans la collaboration, ils ont réussi à dissiper le doute concernant le contenu qui était expliqué. D'accord? Alors, notre extrait, partager des informations concernant des questions différentes qui peuvent concerner la classe ou pas. Là, il faisait une lecture et il commence à parler de choses qui ne se passent pas dans le cours. Mais en feuilletant la revue, donc le magazine, ils ont parlé effectivement d'un réseau de sandwichs, d'accord? Subway, plus exactement. Alors, et d'autres contributions que la collaboration peut apporter pour le développement linguistique à partir de l'interaction dans la salle de cours entre les élèves, il est possible de parler des aspects linguistiques des trois langues abordées, n'est-ce pas? Dans Libras, l'objet, donc la langue était la langue portugaise. anglaise, pardon, mais les discussions sur les deux langues, anglaise et portugaise, parce qu'il y avait des élèves entendants, et anglais, parce que Libras, à cause des élèves qui étaient sourds. Alors, cette discussion concernait effectivement les signes composés, donc les mots composés, c'était très intéressant. Ils apprennent des nouveaux mots également, hein, parce qu'ils apportent des mots en portugais, des mots portugais en anglais, traduction, et l'apprentissage de nouveaux signes également. Donc ici, il voulait savoir, un sourd qui voulait savoir stratégie, hein, s'il y avait un signe, un autre sourd qui dit que oui. Et il a vu, il lui a dit quel était le signe de stratégie. Donc un sourd qui enseigne à l'autre, qui apprend à l'autre, parce que l'enseignante avait parlé de strategies en anglais. Donc la collaboration, elle permet dans l'apprentissage d'une langue étrangère, elle permet la valorisation du collègue, la mise en valeur, l'augmentation, l'amélioration de l'auto-estime. Donc évidemment, il est valorisé en aidant son collègue. Cela contribue à la croissance personnelle parce qu'on peut travailler certaines formes sociales, de dire à l'autre qu'il n'est pas dans... qu'il n'est pas dans le juste, et on peut favoriser également l'enrichissement du répertoire linguistique dans les trois langues et également la connaissance du monde qui est plus élevée. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci. J'avais une question pour Carolina. J'aurais voulu savoir si vous aviez eu un ordre de passation des corpus pour l'histoire de Frog Story, l'histoire de la grenouille. Je crois que vous avez fait passer le même stimulus Frog Story aux mêmes enfants en langue des signes allemande et à l'écrit. Et je voulais savoir si dans votre méthodologie, vous aviez suivi un ordre. Par exemple, vous commencez par la langue des signes et après vous faites à l'écrit ou l'inverse. Et si, à votre avis, il y avait une influence de l'une sur l'autre. Je suis très intéressée par votre méthodologie. Merci.
Merci. On a essayé d'éviter cette influence d'une langue à l'autre. Alors, on a commencé, et c'était des investigateurs différents. On avait un collègue sourd qui a ramassé les dates en langue des signes. Et après, c'était moi avec des autres collègues qui ont ramassé la langue écrite. Pas d'interférence, il y avait des fois 2 semaines de temps entre les deux pour éviter ça. Et alors l'étude longitudinale allait pendant 4 années, mais on a utilisé l'histoire de la grenouille pour la première phase. Après, on a vu que ça se répète, ou pour les enfants aussi, et on a pris des vidéos.
Oui, je veux aussi vous poser une question, Carolina. C'est plutôt une information, mais ça peut aussi s'adresser à Claude Ney, Maria. C'est savoir si ces enfants, enfants que vous avez observés dans les structures bilingues, qu'ils ont...
Christian, attends 2 secondes. Traduction.
C'est une question un peu plus...
C'est bon ? Encore. Est-ce que les enfants que vous avez observés dans ces structures bilingues ont bénéficié de cours sur la langue des signes ? Pas de cours de langue des signes, mais de cours sur la langue des signes, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont un recul métalinguistique sur leur langue avant d'aborder une langue seconde ? C'était juste une information que je voulais avoir.
Oui, je commence. On a eu cette, comme je l'avais dit, le team teaching. Alors, du début, les 2 professeurs, j'étais là aussi, j'avais observé l'instruction contrastive, si on veut. Alors, ils avaient les éléments métalinguistiques pour apprendre la langue écrite, si on veut. Hein? Et ils profitent de ça.
Mais pas au préalable sur la langue des signes.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Pas avant. Sur la langue des signes, il n'y a pas un travail
oui.
sur
oui.
la langue des signes, si avant,
oui.
avant
oui.
Les élèves que j'ai observés sont des élèves universitaires, hein, ce ne sont pas des enfants. Oui. Donc, ce ne sont pas des enfants, ce sont des élèves universitaires. Hein. Et donc, c'était un cours qui était dispensé en anglais. Et étant donné que c'était en anglais et en portugais, hein, puisque c'était un cours en anglais instrumental, hein, donc porté par la lecture, mais le groupe était accompagné d'un interprète en langue des signes. Hein. Et l'interaction entre les activités qu'ils faisaient, alors c'était un texte qu'ils avaient en anglais, ils travaillaient l'anglais, mais les réponses étaient données en langue des signes, c'est-à-dire qu'ils travaillaient toujours en anglais, Libras, mais la question, par exemple, des cognats était donnée en anglais. Donc, effectivement, dans ces cours, dans la partie écrite, ils avaient comme objet de support la langue portugaise. Donc, ils travaillent toujours dans un univers de langue étrangère, dans deux langues, d'accord? Outre la langue étrangère, la langue des signes, la langue écrite, mais locale, et la langue étrangère qu'ils apprennent, d'accord? Et ce plurilinguisme est toujours présent dans ce contexte.
Je veux ajouter tout petit. La démo, c'était très bien parce qu'aujourd'hui, on a une variation en ce qui concerne l'éducation bilingue. Beaucoup de fois, on a des professeurs de support et tout ça, mais pas des classes sur la langue des signes et pas de connaissances métalinguistiques, c'est ça. Je suis d'accord.
Merci beaucoup. Bon, on aura envie de discuter encore beaucoup. Malheureusement, il faut qu'on...